France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Cette semaine, les dirigeants des pays du G7 se réuniront à Biarritz sous présidence française. Invités pour la première fois, les représentants des pays du G5 Sahel se joindront au sommet qui sera cette année placé sous le signe de la lutte contre les inégalités à l'échelle mondiale. D'autres questions seront bien sûr abordées pendant 3 jours. Le nucléaire iranien, la guerre commerciale Chine-États-Unis et ses conséquences, la situation à Idlib en Syrie, au-delà de l'utilité et de l'efficacité toujours incertaine de tels rendez-vous internationaux, que nous disent-ils? Et que nous dit-il ce sommet du G7 à venir de l'état de la mondialisation, du moins telle qu'on se la représente dans les pays riches, dans les pays qui seront représentés à Biarritz? Alors qu'aujourd'hui débute au Pays Basque le contre-G7, série de rendez-vous organisés par des mouvements contestataires et altermondialistes, et alors qu'en ce lundi, Vladimir Poutine doit être reçu par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, voyons quelles sont les dynamiques de la mondialisation, en compagnie ce matin de Bertrand Badi. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite à Sciences Po, vous allez faire paraître prochainement chez Odile Jacob l'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale. Ça sera au mois d'octobre. Alors on sait que vous n'êtes pas tendre avec le G7, Bertrand Badi, dans son fonctionnement et dans son esprit, et plus largement vous n'êtes pas tendre non plus avec un système international qui bien souvent fonctionne selon d'anciens schémas. Ce qui va se jouer à Biarritz, selon vous, c'est avant tout cette fois de la politique intérieure, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à attendre, quelque chose de multilatéral à attendre de ce sommet?
Il y a toujours quelque chose à attendre d'une réunion internationale. Faisons très rapidement un peu d'histoire. Le G7, qui était le G6 à l'époque, a été créé en 1975 à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing, donc à l'initiative de la France. C'était un club qui, d'une part, était limité, strictement limité au camp occidental. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était en situation de, sinon de guerre froide, du moins de bipolarité. Et d'autre part, qui devait laver le linge sale occidental, c'est-à-dire on était à l'époque en pleine crise du dollar, il fallait s'entendre et se concerter pour éviter le pire et pour régler les petits problèmes internes au camp occidental. Alors j'ai dit concerter, et voilà le mot-clé. Une concertation, c'est pas une négociation. Une concertation, c'est une confrontation de points de vue. De ce point de vue-là, c'est pas nul. C'est-à-dire le fait que cette état de la planète concerte leur point de vue, c'est déjà un rail installé dans le traitement des relations internationales. Seulement, voilà, le monde a changé depuis. Vous disiez les plus riches et les plus puissants, ce n'est pas exact, car depuis, les émergents ont bousculé le classement, en quelque sorte, et la Chine, par exemple, ne fait pas partie du G7 et ne veut pas faire partie du G7. Pourquoi? Parce que, tel qu'il est devenu, le G7 est une concertation entre, je dirais, États oligarques occidentaux. Alors, ce n'est pas nul, c'est important, entre occidentaux, entre régents occidentaux, de se concerter. Seulement, l'effet sur la régulation internationale est un effet doublement faible.
Alors que c'est présenté comme ayant un effet, comme devant avoir un effet, c'est ça le problème peut-être.
Une concertation peut avoir un effet à partir du moment où les acteurs veulent que cette concertation débouche sur quelque chose. C'est-à-dire, dans l'histoire des relations internationales, vous avez des moments où la concertation fonctionne, et d'un certain point de vue, 1975, régulation de la crise du dollar, c'était cela, et il y a des moments où la concertation fonctionne moins bien. Maintenant, et notamment depuis l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, la concertation à l'intérieur du camp occidental est faible. Donc, déjà, cette concertation fonctionne mal. Deuxième problème, c'est que si la concertation entre occidentaux dans les années 70 pouvait avoir un sens du point de vue de la régulation internationale, ne serait-ce que pour l'organisation du camp occidental, aujourd'hui, quelle est sa signification? On est, vous le disiez tout à l'heure très justement, en contexte de mondialisation. Dans le contexte de la mondialisation, monsieur de la Palice vous expliquerait que c'est l'ensemble des grands acteurs mondiaux qui comptent et qui pèsent sur le jeu international. Là, on est très loin du compte. Il n'y a plus la Russie qui était, qui est entrée, qui est sortie. Il n'y a jamais eu les émergents et il n'y a pas la Chine. Donc, ce ne sont pas les, comme on l'entend régulièrement, les États les plus puissants, ce ne sont pas les États les plus riches, ce sont les États occidentaux, c'est-à-dire les anciens régents du monde, c'est-à-dire une tentative de prolonger un modèle qui est issu en fait du concert européen du 19e siècle, qui donnait aux Occidentaux une sorte de régence sur le monde. Ça, c'est terminé.
Qui ne perd plus aujourd'hui. Est-ce que le problème, Bertrand Badie, c'est que la mondialisation ne fait plus sens, ou du moins qu'on n'en a pas la même représentation, et même à 7, même dans un groupe restreint de 7 pays?
La mondialisation, elle appartient à personne. Et la mondialisation, elle fait sens en soi. La mondialisation, c'est pas le résultat d'un décret. C'est pas le résultat d'un choix politique. Et là, de ce
point
de vue.
Mais la représentation qu'on a de la mondialisation en fonction des différents acteurs, c'est peut-être là qu'est le problème.
La représentation, oui. Mais à partir du moment où un paramètre vient organiser le contexte international, celui-ci est nécessairement vu différemment selon les regards. Le problème, c'est que la mondialisation, c'est un acquis sur lequel on ne pourra jamais revenir, parce qu'il est lié notamment au progrès technologique. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est pas de nous poser toujours la question de savoir si la mondialisation est bonne ou mauvaise, la question n'a aucun sens, c'est de savoir comment produire une bonne mondialisation, c'est-à-dire comment la réguler, comment l'organiser. Or, je retourne vers Monsieur de la Palice, une bonne mondialisation ne peut être régulée que par l'ensemble des acteurs de la mondialisation. De quoi peut-on parler à propos de la mondialisation si la Chine n'est pas là, si les grands émergents ne sont pas là, et même si la Russie n'est pas là, la Russie n'ayant plus le poids qu'elle avait, bien entendu, autrefois.
Et d'autant plus si Trump est opposé au multilatéralisme, comme on le sait, d'autant plus si l'Italie est gouvernée par l'extrême droite, si la Grande-Bretagne veut sortir de l'Europe, si le Japon regarde aussi un peu ailleurs. C'est ça le problème aussi de ce regroupement des 7 pays là, qui va avoir lieu à Biarritz, Bertrand.
Alors, je crois qu'effectivement, on peut dire que dans la chronologie du G7, G6, G7, G8, c'est-à-dire depuis 1975, jamais ce groupe n'a été aussi divisé, premièrement. Et deuxièmement, jamais les acteurs n'ont été à ce point en désaccord sur ce que régulation et gouvernance peut vouloir dire. C'est la raison pour laquelle on est au creux de la vague, on est au fond du trou. Alors, l'initiative française est intéressante, parce que je crois que Emmanuel Macron a mis le doigt là où il fallait, c'est-à-dire dire la mondialisation, elle est déjà grevée par les inégalités mondiales. C'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée que de recentrer le problème de la mondialisation en appuyant là où ça fait mal et où il faut que ça aille mieux, c'est-à-dire les grands équilibres socio-économiques du monde. Seulement, la France toute seule, qui va épauler la France dans ce programme? Cette histoire des inégalités mondiales n'intéresse pas les États-Unis, n'intéresse pas l'Italie, vous le disiez tout à l'heure, et un certain nombre d'autres pays, la Grande-Bretagne. La France n'a près d'elle, je ne dirais pas à ses côtés, mais près d'elle, pas trop loin, l'Allemagne, le Canada. Et puis on va arrêter là le classement.
Le fait de mettre ce G7 sous la lumière de la lutte contre les inégalités, est-ce qu'il faut y voir un signe, selon vous, Bertrand Badie, que les États, ou du moins peut-être alors la France, prend conscience que les enjeux sociaux deviennent aussi importants, peut-être plus d'ailleurs que les enjeux de puissance, parce que c'est ça aussi qui se cachait derrière le G7 jusqu'à il y a peu.
Alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que les relations internationales ont pris un tournant absolument vertigineux, on peut dire ça, parce que ça désarçonne totalement les acteurs et les observateurs, avec la naissance de la mondialisation. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, les relations internationales, c'était des rapports de puissance. Or aujourd'hui, les rapports de puissance, zéro. Regardez la claque que a reçue Monsieur Trump pendant ce week-end lorsque le bateau iranien a finalement été libéré à Gibraltar. C'est-à-dire les jeux classiques d'hégémonie ne fonctionnent plus. Ce qui, en revanche, domine les relations internationales, c'est ce paramètre complexe et très désordonné qu'est l'enjeu socio-économique. C'est facile à comprendre. À partir du moment où la mondialisation, c'est l'inclusion de tous dans un même monde, l'inclusion de tous dans un même monde fait que dans ce même monde figure le Luxembourg avec ses 100 000 $ de PIB par habitant au Luxembourg et les 500-600 que l'on trouve au Burundi. Ce déséquilibre socio-économique mondial est telle que la mondialisation a inventé le système social le plus inégalitaire qui n'ait jamais été connu depuis Adam et Ève. Il faut bien avoir ça en tête. À partir du moment où on atteint un tel seuil d'inégalité, jamais connu dans nos pays européens, même au XIXe siècle, à partir du moment où on atteint un tel seuil d'inégalité, la violence est dans l'antichambre. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'extraordinaire précarité et insécurité qui rejaillit sur l'ensemble du globe. C'est-à-dire des inégalités mondiales trop fortes, c'est bien entendu les plus riches qui se trouvent menacés, c'est un schéma bien connu, que la diplomatie française le mette en évidence, c'est bien, le problème c'est qu'il faut passer des bonnes paroles à des actes, et là on en est extraordinairement loin.
La puissance n'opère plus, nous disiez-vous, Bertrand Badi, à l'instant. Est-ce que l'autre initiative d'Emmanuel Macron, de recevoir Vladimir Poutine ce soir au fort de Brégançon, en amont du G7, Vladimir Poutine qui ne fait plus, enfin la Russie qui ne fait plus partie du G7 depuis 2014, est-ce que ça aussi c'est une bonne initiative à vos yeux ?
En tout cas, c'est une initiative habile. Parce que, effectivement, la Russie a été exclue du G7 en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée. Et du coup, elle se trouve hors du champ de concertation dont nous parlions il y a un instant. La France étant l'hôte du G7 cette année, Emmanuel Macron se pose, sinon en médiateur, du moins en intermédiaire. C'est-à-dire, Poutine ne sera pas là, mais moi je le reçois 3-4 jours avant, et je vous dirai ce qu'on s'est dit. Ce qui, effectivement, sur la scène diplomatique, vous donne un plus, un avantage, dans la mesure où la parole d'Emmanuel Macron ne sera pas seulement celle du chef d'État français, mais ce sera celle du chef d'État français qui vient de négocier, ou en tout cas de se concerter bilatéralement avec la Russie. Les relations franco-russes se sont beaucoup améliorées. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour justement donner à Macron cette position d'intermédiaire, je dis pas de médiateur, mais d'intermédiaire entre la Russie et le G7. Il y a eu la réintégration de la Russie dans le Conseil de l'Europe. Il y a eu très récemment, du côté de la Russie, la libération d'un banquier français qui avait été retenu à Moscou. Donc tout ceci permet de relancer les relations bilatérales franco-russes qui n'étaient pas bonnes, hein, et de donner un plus à la diplomatie française, qui est de facto pratiquement le seul interlocuteur possible pour la Russie dans le format du G7, parce que on sait la complexité des relations russo-américaines, on sait l'affaiblissement politique de Angela Merkel et de Boris Johnson, qui sont tous les deux confrontés à des problèmes intérieurs extraordinairement complexes. Donc effectivement, c'est un plus pour Emmanuel Macron.
Les sujets vont d'autant plus pas manquer, hein, entre Macron et Poutine ce soir, l'accord sur le nucléaire iranien, la réactivation des accords de Minsk, la situation à Idlib en Syrie, vous l'évoquiez. C'est la position du médiateur ou de l'intermédiaire, alors quelle est la position de l'avenir, Bertrand?
Non, on ne peut pas parler de médiateur. La médiation, c'est une vraie négociation sur un véritable ordre du jour. Là, je dis intermédiaire dans la mesure où il ne peut y avoir entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en ce moment qu'une logique de concertation, celle que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire, on confronte ses points de vue, et puis on voit dans quelle direction on peut aller pour améliorer les choses. Je dirais intermédiaire, et je dirais aussi intermédiaire entre le G7 et la Russie, c'est-à-dire rapporter ensuite au G7 non seulement les propos tenus par Vladimir Poutine, mais la manière dont Emmanuel Macron les aura interprétés.
Est-ce qu'il faudrait une réflexion de manière un peu plus globale, Bertrand Badi, sur l'affaiblissement de l'État-nation, affaiblissement qui se produit au bénéfice d'acteurs non étatiques? Alors ça fait déjà longtemps, on a vu l'émergence ces dernières années des entreprises, du monde des affaires et de la finance, des groupes terroristes aussi. Cette réflexion-là, Bertrand Badi, est-ce qu'il faudrait la mener dans le cadre des grands rendez-vous internationaux comme ceux auxquels on va assister en cette fin de semaine, le G7 en l'occurrence?
Alors évidemment oui, pour une raison très très simple et qui fait frissonner beaucoup de monde, c'est que la souveraineté, qui était la règle principale de la grammaire internationale, ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut plus résoudre les grands problèmes internationaux par l'usage de la grammaire souverainiste. Pourquoi ? Parce que la mondialisation crée de plus en plus de biens communs. Qu'est-ce que c'est qu'un bien commun ? C'est un bien insécable, c'est-à-dire que chaque État ne peut pas gérer séparément, comme par exemple les grands paramètres écologiques. Donc de ce point de vue, on a besoin de mettre en place un mode méta-souverain de régulation internationale. Seulement voilà, et nous sommes au cœur du sujet, toutes les institutions internationales, y compris, et je dirais même surtout le G7, sont des institutions intersouverainistes, c'est-à-dire où les États mènent le jeu comme ils le menaient au Congrès de Vienne en 1815, voire lors de la paix de Westphalie en 1648. C'est-à-dire on est en complet décalage avec les réalités mondiales actuelles. C'est-à-dire les réalités mondiales passent par ce que le grand Kofi Annan appelait un multilatéralisme social, c'est-à-dire intégrer les paramètres sociaux dans la négociation et donc introduire les acteurs sociaux dans la négociation et surtout ne plus faire de la souveraineté ce paravent absolu derrière lequel chaque État construit sa politique étrangère dans l'ignorance de l'autre. C'est le modèle trumpien, c'est le modèle néo-nationaliste qu'on retrouve chez beaucoup de dirigeants actuels, vous citiez Salvini.
Et qui pourtant se recroqueville, c'est ça le paradoxe, hein, Bertrand Badie. Il faudrait parler, on parle d'ailleurs de relations maintenant transnationales plutôt que de relations internationales.
Oui, parce que nous sommes dans deux mondes en même temps, et c'est toute la difficulté des relations internationales aujourd'hui. On est dans un monde de peur, c'est-à-dire de peur d'être déchu de sa souveraineté, de peur de la mondialisation. Dieu sait si la peur de la mondialisation est distillée par les médias, sauf France Culture bien entendu, par l'ensemble des actes ou la quasi-totalité des acteurs politiques. Donc cette peur de la mondialisation, elle nourrit des réflexes nationalistes qui n'ont rien à voir avec le nationalisme du 19e siècle, parce que ce sont des nationalistes de repli, de verrouillage. On ferme les portes, les fenêtres, les rideaux, les volets. Bon, et on essaye de se tenir au jeu souverainiste. Et là, c'est ce modèle-là qui continue à diriger le monde et qui échoue totalement, qui est mise en échec et qui échoue. Regardez même la superpuissance américaine mise en échec partout, et notamment, je parlais du bateau iranien, mais on pourrait parler également des négociations sur le climat quittées par les États-Unis qui n'ont été suivies par personne, etc., etc. Et puis il y a l'autre monde. Il y a ce monde, je dirais, de la quotidienneté qui fonctionne à travers la révolution numérique, à travers la transformation des communications, à travers la mondialisation du commerce. Et tout ceci, en quelque sorte, se détache de plus en plus des logiques étatiques. Ça fonctionne sur soi-même. Et ce qui est dangereux, c'est cela. C'est que, puisque les États se rétractent sur leur souveraineté nationale, ils perdent toute chance de réguler ce vaste monde qui, lui, de plus en plus, ne demande à personne son reste et fonctionne de lui-même. L'idéal, ce serait de raccrocher l'un à l'autre. C'est extrêmement difficile. Et qui le veut vraiment ? Qui le veut vraiment ? Parce que même la diplomatie française est courageuse, on en parlait tout à l'heure, mais elle reste, elle aussi, terriblement souverainiste. Regardez les interventions militaires françaises un peu partout dans le monde, ça correspond au modèle du 19e siècle.
Qui sont des interventions françaises et pas européennes.
Comme vous dites, et encore moins mondiales.
Les inventeurs de la mondialisation, Bertrand Badie, sont les premiers contestataires de cette mondialisation. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie contestataire aujourd'hui ?
Tout à fait. Alors, inventeur de la mondialisation, faire attention, parce que comme je disais tout à l'heure, la mondialisation n'a été inventée par personne, elle a été inventée par la révolution technologique. Mais en tous les cas, ceux qui l'ont portée, c'est-à-dire les États-Unis, et les États-Unis à travers leurs élites politiques, gouvernementales, leurs élites économiques, leurs élites culturelles, etc., ceux qui ont porter la mondialisation sont les premiers à la contester. C'est quand même phénoménal. C'est une révolution dont on n'a pas pris la mesure. Comment les États-Unis sont devenus les premiers contestataires du monde. Et effectivement, c'est en même temps le signe que l'hégémonie ne fonctionne plus Et c'est aussi le signe que nous sommes dans un monde où la contestation est plus active que la production.
Au niveau de l'Europe, qui reste au niveau diplomatique dans son union, dans un flou à peu près total, Bertrand Badie, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer ou comment est-ce que vous pensez qu'elles devraient évoluer ?
Quelque chose qui va vous faire de la peine, l'Europe n'est plus dans le film. C'est-à-dire, l'Europe pourrait être dans le film à trois conditions. La première condition, c'est qu'elle soit unie, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement une communion de volonté et de choix politiques. Or, entre Monsieur Orban, Monsieur Salvini, Monsieur Johnson d'une part, les dirigeants allemands, français ou belges ou espagnols, le fossé est énorme. Donc, un, il n'y a pas d'unité. Deux, il n'y a pas véritablement de volonté européenne de s'ouvrir à la mondialisation. L'Europe ne parle qu'à l'Europe et à la rigueur à ses partenaires transatlantiques. Mais l'Europe n'a jamais su prendre le train en marche de l'émergence, parler aux puissances émergentes, avoir un vrai partenariat avec la Chine, avec les autres grands de l'émergence. Et la troisième nécessité, c'est effectivement avoir le courage de rebâtir une grammaire de l'international. Vous savez, l'Europe est le dépositaire de l'histoire stato-nationale et souverainiste. C'est l'Europe qui a inventé ce système international qui ne marche plus aujourd'hui. C'est donc difficile de demander à l'Europe qui a été l'inventeur de ce système, qui doit son existence à ce système. Le système westphalien, c'est ce qui a dessiné la carte de l'Europe. Eh bien, chacun des États reste terriblement jaloux de sa puissance et de sa souveraineté. C'est ses principes qui les ont toujours fait vivre et personne n'ose véritablement s'en défaire.
Vous restez avec nous, Bertrand Badie, on se retrouve après le journal.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
La semaine qui s'ouvre sera marquée sur le plan des relations internationales par le sommet du G7 à Biarritz, autant que par les initiatives des opposants menées au Pays Basque par une quarantaine d'organisations. Le contre-sommet du G7 débute d'ailleurs dès aujourd'hui, alors que en ce lundi, Emmanuel Macron par ailleurs invite le président russe Vladimir Poutine au fort de Brégançon pour une réunion de travail. Tout cela nous donne l'occasion de nous interroger ce matin avec notre invité Bertrand Badie sur les dynamiques de la mondialisation. Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Nous disions tout à l'heure, dans la première partie de notre entretien, que l'État-nation n'était peut-être plus l'unité de base, ou en tout cas plus la seule unité de base à l'aune de laquelle la mondialisation devait être pensée ou repensée. Vous nous disiez qu'il y avait un manque d'unité entre pays et entre États-nations, notamment dans le cadre du G7, avec des pays, dans le cadre aussi européen, avec des pays qui ont fait le choix du populisme. Et précisément, Bertrand Badie, tout ça ramène au peuple et aux décisions du peuple. Parce que dans le cas de la Hongrie que vous citiez tout à l'heure et de Viktor Orban, c'est bien une élection et en Italie aussi, qui a décidé d'installer des dirigeants à l'extrême droite dans ces pays, Bertrand Badie.
Oui, de toute manière, ceci dépasse et de beaucoup le cadre de l'Europe. Regardez ce qui se passe en Inde. L'Inde est prise par une fièvre nationaliste et identitariste sans précédent, qui tourne progressivement à la persécution des musulmans. Ceux qui arrivent dans l'Assam sont taxés par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Ahmed, de termites. Le même ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur en fonction, menaçant de jeter ces personnes dans le golfe du Bengale. Donc c'est un phénomène général. Pourquoi ? Parce que la mondialisation donne inévitablement le vertige. Nous sommes des générations et des générations d'êtres humains à avoir été éduqués, socialisés, formés dans un contexte stato-national, c'est-à-dire un horizon spatial assez limité. Tout d'un coup, nous nous trouvons, sans aucune transition, plongés dans l'univers de la mondialisation. Ceci crée des attitudes de peur. Cette peur est entretenue par tout un tas d'entrepreneurs politiques qui trouvent leur fortune, ces partis populistes qui savent tout ce qu'ils peuvent tirer de dividendes de cette peur suscitée par la mondialisation. Et tout ceci se traduit en termes identitaristes, que ce soit de nature religieuse, que ce soit de nature ethnique, que ce soit de nature simplement nationale. Donc il faut composer avec ces nouveaux paramètres, ces comportements sociaux, et c'est vrai que maintenant la régulation mondiale est d'autant plus difficile à opérer que nous sommes dans un contexte où les réflexes souverainistes n'ont jamais été aussi vifs. Si vous comparez il y a 10 ans, il y a 20 ans, et a fortiori il y a 50 ans, ces réflexes nationalistes et souverainistes sont extraordinairement forts. D'où effectivement cette équation très, très complexe. Alors, qui fait que la mondialisation devient le point de convergence de toutes les protestations? C'est-à-dire, on arrive à une situation où tout ce qui va mal est imputé ou imputable à la mondialisation.
Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Bertrand Badie, c'est qu'il faut comprendre les mouvements populistes comme des mouvements de contestation de la mondialisation, alors que c'était précisément la gauche qui avant contestait et qui en premier peut-être a contesté cette mondialisation dans les années 90.
Alors, il faut faire très encore, attention parce que il y a deux formes de contestation de la mondialisation. Et on ne fait pas suffisamment cette différence. Il y a ceux qui rejettent la mondialisation en disant ceci est inadmissible, il faut rester dans les schémas classiques, statos nationaux, les frontières, la nation, l'identité, tout ce qui s'ensuit. Inévitablement, cette contestation globale de la mondialisation ramène à droite, parce qu'elle ramène à une vision nationaliste, à une vision de repli identitaire, qui sont des thèmes familiers pour la droite. Il y a une autre forme de contestation de la mondialisation, qui consiste à dire on accepte la mondialisation, mais on entend la réguler. C'est ce qu'était à un moment l'altermondialisme. Altermondialisme, ça voulait pas dire contre la mondialisation, ça voulait dire une autre mondialisation. Et une autre mondialisation, c'est quoi? C'est une mondialisation régulée, c'est une mondialisation institutionnalisée, c'est une mondialisation plus égalitaire, c'est une mondialisation plus inclusive, plus intégrante, c'est une mondialisation plus solidaire. Ce sont des valeurs de gauche. Alors, nous sommes en ce moment dans un contexte où vous avez deux vents qui soufflent face à la mondialisation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, un rejet global qui déporte effectivement vers des schémas conservateurs et traditionnalistes, et un schéma plus politique qui dit il faut politiser cette mondialisation, il faut l'organiser, il faut la réguler. Force est d'admettre que ce deuxième courant qu'on pourrait appeler de gauche, contestation de gauche de la mondialisation, est en perte de vitesse parce que peut-être plus subtil, plus complexe que l'autre qui consiste à dire mais non, retournons à l'état-nation, retournons aux identités, retournons aux fondamentaux, conservons le monde, c'est-à-dire l'attitude réactionnaire au sens fort du terme. Celle-ci a le vent en poupe et c'est la raison pour laquelle la plupart des populismes, pas tous, mais la plupart des populismes qui soufflent sur le monde aujourd'hui sont des populismes de droite, comme en Inde, comme en Italie, comme en Hongrie, comme aux États-Unis, et on pourrait ainsi continuer.
Cette critique, cette remise en cause de la mondialisation telle qu'elle est pensée, en tout cas en ce moment, c'est la revanche de l'ancien marginalisé, et c'est aussi la revanche donc, c'est ce que vous nous dites, du local et des forces interétatiques qui se sont senties pendant des années dépossédées des richesses.
Alors, vous avez raison, c'est la revanche des dépossédés, ou plus exactement de ceux qui se considèrent comme dépossédés, et qui n'ont pas toujours tort, parce que c'est vrai que la mondialisation est venue frapper les classes moyennes des anciens pays riches. C'est vrai que les classes moyennes aux États-Unis, que les classes moyennes en Europe n'ont pas gagné à la mondialisation. Alors qu'au contraire, les plus riches des plus riches ont gagné, c'est la raison pour laquelle ça attise souvent une critique anticapitaliste qui mêle en quelque sorte mondialisation et ultracapitalisme. Mais il ne faut pas oublier non plus que la mondialisation a aidé les plus pauvres. C'est-à-dire les plus pauvres sur cette planète ont bénéficié, alors à des degrés extrêmement limités et en les laissant encore trop bas dans l'échelle du développement, mais la mondialisation a favorisé les plus pauvres, les pays les plus sinistrés de la planète. Alors, effectivement, ces classes moyennes de l'ancien monde, je dirais, qui se sentent victimes de la mondialisation. Pourquoi sont-ils victimes de la mondialisation? C'est parce que l'ancien ordre mondial de domination occidentale leur était scandaleusement favorable. C'est-à-dire que la domination à travers la colonisation, à travers toutes les formes d'hégémonie du vieux monde sur la planète tout entière, avait outrageusement favorisé ces classes moyennes qui maintenant se trouvent victimes de ce rééquilibrage global. Et c'est la raison pour laquelle, dès lors que des entrepreneurs politiques utilisent l'argument qui consiste à dire « la mondialisation est votre ennemi », ces gens-là croient en ce discours sans toujours se demander quelles sont les alternatives réelles à la mondialisation telle qu'elle se développe aujourd'hui.
On disait tout à l'heure, Bertrand Badie, qu'il fallait peut-être penser, se mettre à penser à l'affaiblissement de l'État-nation, mais selon quelle piste et selon quel premier regard, selon vous ?
Alors d'abord, soyons clairs, on ne peut pas décréter la fin de l'État-nation. Et d'ailleurs, personne n'en parle. Et cette fin de l'État-nation, elle est impossible sur le plan institutionnel et je dirais même sur le plan pratique.
C'est un affaiblissement.
Alors, il y a un affaiblissement, mais justement, c'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire, il faut travailler à une formule qui intègre différemment les États-nations dans l'espace mondial. D'où l'invention du multilatéralisme. Le multilatéralisme a été inventé pour ça. Nous, Français, nous devrions le savoir parce que c'est l'un des nôtres, le grand Léon Bourgeois, que personne ne connaît ou presque aujourd'hui, ce président du Conseil de la fin du 19e siècle, cet homme qui, au début du 20e siècle, a écrit un livre qui s'appelle « Pour une société des nations » parce qu'il disait « Le monde est en train de se transformer, on a besoin d'un multilatéralisme, on a besoin d'une société des nations pour réguler ce monde ». Donc, le problème, c'est pas d'abolir l'État-nation, ce qui est serait complètement stupide. Le problème, c'est d'adapter l'État-nation et sa vieille grammaire souverainiste à cette réalité de l'intégration mondiale. On a cru trouver la solution en inventant les grandes institutions internationales et ça a en partie marché dans quantité de domaines. Prenez l'organisation de l'aviation civile, prenez l'organisation des communications, tout ceci fonctionne, je dirais, presque parfaitement. Il y a des îlots de résistance, là où les exigences souverainistes sont les plus fortes, en matière de sécurité, c'est-à-dire de paix et de guerre, mais aussi dans les domaines économiques et sociaux, dont on comprend très bien ce qu'ils représentent comme enjeux souverainistes pour chacun des États-nations. C'est là qu'il faut travailler, c'est-à-dire à une intégration. Alors ça veut dire quoi, intégration ? Abandon de souveraineté ? Non, ça aussi c'est trop simple. Ça veut dire tout simplement mettre en pratique un travail de régulation, c'est-à-dire de gouvernance globale, comme l'on dit actuellement. Gouvernance globale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon les enjeux, il faudra abandonner une part plus ou moins grande et à négocier de souveraineté nationale. On ne peut pas traiter des questions climatiques avec la grammaire souverainiste. Regardez M. Bolsonaro. On ne peut pas traiter les questions de développement sur un mode souverainiste. On ne peut pas traiter le sujet numéro un qui est la faim dans le monde, qui est la sécurité alimentaire. N'oubliez pas que chaque année, 6 à 9 millions des nôtres meurent de faim. Vous vous rendez compte ? Le terrorisme, c'est coup d'eau à côté de ce fléau. Or, ce fléau de l'insécurité alimentaire ne peut pas être traité sur le mode souverainiste. Ce n'est pas possible, parce que si on le fait sur le mode souverainiste, eh bien on le fera selon les vieux modèles de coopération, c'est-à-dire cette vision caritative du développement. Moi, le riche, je lâche quelques bifetons pour permettre aux Burkinabés de survivre.
Et on continuera à gouverner le monde entre amis, c'est ça qui... Le spectacle qui va être donné à Biarritz à la fin de la semaine.
Entre connivants, parce que ces gens-là ne sont pas forcément des amis, ce sont des rivaux, et ce sont des rivaux qui, pour protéger leurs privilèges, ont une certaine connivence. Ces relations internationales basées sur la connivence, ça a été effectivement le malheur de notre monde, en tous les cas depuis la chute du mur.
Je vous voyais réagir tout à l'heure quand on parlait de Trump voulant acheter le Groenland. Un avis là-dessus, Bertrand Badie ?
Oui, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, c'est vraiment la projection des schémas du 19e siècle. C'est-à-dire, en même temps, effectivement, cette vision oligarchique du monde, ce mépris pour la vraie démocratie. On va acheter des gens, on va acheter des personnes, des êtres humains. Et pour un homme qui se targue, quand ça l'arrange, hein, pas face à Monsieur MBS par exemple, mais quand ça l'arrange, qui se targue d'idéologie démocratique, lancer une OPA sur un territoire humain, c'est quand même assez effrayant. Nous sommes dans un monde effrayant. C'est-à-dire, quand on entend parler, je l'ai entendu ce matin, Monsieur Salvini, quand on entend parler Monsieur Trump, quand on entend parler Monsieur Duterte, le Philippin, quand on entend parler Monsieur Orban, on a peur.
Bien, merci de l'avoir éclairé de vos lumières, ce monde effrayant. Bertrand Badi, merci d'être venu dans les matins d'été. Je rappelle que vous allez faire paraître prochainement chez Odile Jacob l'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, parution le 9 octobre précisément.